pour saint Thomas et pour Aristote, c'est très net qu'il y a deux opérations intellectuelles. Le point de vue de la raison, mode rationnel et humain, et cette partie, cette activité de la raison est soumise à la logique. La logique naît du fait même qu'il y a une différence entre le réel et ce que je connais. Autrement dit, l'abstraction. Du fait même qu'il y a cette abstraction, apparaît l'universel. Et l'universel apparaît sous ces cinq formes différentes. Et saint Thomas, à la suite d'Aristote, reconnaît qu'il y a une autre activité de l'intelligence, qui est l'activité de l'intelligence analogique. C'est-à-dire que c'est l'intelligence comme intelligence, et non pas comme intelligence humaine. L'intelligence humaine, c'est la raison. L'intelligence comme intelligence, c'est l'intelligence. D'où ces deux modes de connaissance tout à fait différentes. Le mode univoque, genre et différence spécifique, définition, tout ce qui est directement gouverné, et je dis bien par la logique, qui, comme dit saint Thomas, la logique, c'est l'art des arts. Et ça, c'est propre à Thomas d'Aquin. Aristote ne dit pas ça. Et ça fait bien comprendre ce que c'est que la logique. La logique naît à partir d'une intelligence qui abstrait. Donc, d'une intelligence qui a son monde particulier. Ce monde particulier qui est universel. Et l'universel a des modalités différentes. Alors, première activité univoque de l'intelligence, seconde activité analogique. Et Aristote distingue très bien le nous qui regarde ce qui est et l'intelligence rationnelle de l'homme. J'ai les deux. À partir de Descartes, et ça, c'est très important. Peut-être, je n'ose pas trop le dire, parce que Descartes a un grand-père qui est théologien. C'est ennuyeux d'avoir un grand-père théologien. Parce que Descartes, ça commence la laïcité de l'intelligence, hein. Et son grand-père théologien, l'intelligence se développe à l'intérieur de la foi. Occam, 14e siècle. Et Descartes a été sous l'influence d'Occam. Il ne faut pas l'oublier. Alors, on ne l'avait pas découvert il y a 200 ans. On a découvert depuis 100 ans, à peu près. On a découvert qu'au fond, Occam était très important parce que c'était le premier qui avait dit l'objet premier de l'intelligence, c'est l'intelligence elle-même. Et pour Aristote, l'objet premier d'intelligence, c'est mon expérience, ce que mes sens donnent. Tandis que pour Occam, l'objet premier d'intelligence, c'est je pense. Vous voyez, Descartes disait aussi cogito. La différence, c'est que Occam ne parlait qu'en latin, en bon théologien, tandis que Descartes parle en latin et en français. C'est le premier qui se sert de la langue vulgaire pour parler sa philosophie. Avant, on se servait du latin. Et c'est très important, ça. Aujourd'hui, c'est bien évident que si je faisais mes cours en latin, quand je suis arrivé à Fribourg, je devais faire des cours en latin. Très vite, parce que de temps en temps, je faisais des excursus en français. Très vite, les étudiants m'ont dit, vos excursus sont beaucoup plus intéressants que le cours. Pourquoi ne faites pas le cours en français ? Et c'est vrai, la langue, c'est quand même le moyen de transmission. Le latin est une langue morte. Le français est une langue vivante. Donc, ce qu'on donne en latin, c'est mort. Et ça fait dormir. Ce qu'on donnait en français, réveillé. Et je le sentais bien. On sent bien quand l'auditoire se met à dormir. Et là, voilà, coup de fouet, c'était le français. Et pour que ça repart. Les étudiants m'ont demandé de faire le cours en français. Mais le règlement était que les cours spéculatifs étaient en latin et les cours historiques étaient en français. Donc le spéculatif, c'est mortel. Et les cours historiques, en français, c'est vivant. Ça n'a l'air de rien, mais je crois que c'est beaucoup. Parce que ça faisait qu'au fond, la seule chose vivante, c'était les cours d'histoire. Tandis que la spéculation, c'est mortel. C'est figé. Alors, les étudiants m'ont demandé de faire des cours en français. En faisant ça, je savais que j'allais contre le règlement. Aller contre le règlement en Suisse, c'est une petite affaire. On le sait. Et c'est vrai. C'est... Alors, je savais ça. Je leur ai dit, je vais vous faire passer un papier, vous m'écrirez et vous signerez que vous désirez que les cours soient en français, en langue vulgaire. Et ceux qui désirent que les cours soient en latin, alors il y avait le compartiment latin et le compartiment français. Il y avait 120 étudiants, à peu près, 123, je crois. 125. Il y en avait 3 qui demandaient que les cours soient en latin. Sur 125. C'était 3 étrangers, évidemment, qui n'étaient pas français. Alors, je suis parti de l'enseignement de saint Thomas. Les cours, c'est une miséricorde. Parce que c'est pour les étudiants. Le cours n'est pas pour le professeur. Le cours est pour les étudiants. La finalité du cours. Vous voyez, la finalité, ça sert à quelque chose. La finalité du cours, c'est que les étudiants écoutent ce cours et progressent. Si les étudiants assistent à ce cours en disant « Ah, oh, on ne comprend pas grand-chose », c'est assommant, c'est en latin. Et tous les manuels de scolastique étaient en latin. Aucun était en langue vulgaire. Alors, j'ai fait passer, donc trois seulement. Je leur ai dit, dorénavant, pour respecter la tradition, pour respecter le règlement, parce que je vais faire quelque chose qui est contre le règlement. Et je le fais à cause de vous et pour vous. Parce que si je suis conscient de ce que je fais, le cours, c'est pas pour le professeur, c'est pas pour gagner de l'argent. Le cours, c'est pour les étudiants. Si les étudiants réclament que le cours soit en langue vulgaire, je dois faire le cours en langue vulgaire. Mais je respecte le règlement. Et je respecte les trois. Alors, je ferai 10 minutes le résumé du cours en latin. Puis après, le reste, l'explication en français. Cela a duré un mois, à peu près. J'ai dit ça, à peu près un mois ou deux mois. Puis, le doyen m'a appelé. J'ai appris que vos cours systématiques, spéculatifs, étaient en français. Alors j'ai dit, attention. Écoutons. J'ai 120 étudiants. Ces étudiants ont réclamé. Parce que forcément, quand je faisais des cours en latin, ben, je lisais mes cours. Je les écrivais et je lisais mes cours. Et puis, ils ne comprenaient pas le latin, les étudiants, la plupart. Alors, je veux bien, les cours sont-ils pour respecter le règlement ? Où sont-ils pour les étudiants ? Je m'étais devant un dilemme. En tant que doyen, il devait penser et réfléchir. Et pas uniquement appliquons le règlement. Réfléchissons. Pourquoi le règlement ? C'est pour qui ? Je lui demandais comme ça. Avec insistance, c'est pour qui les cours ? Alors il me dit, mais c'est pour les étudiants. Alors, si c'est pour les étudiants ont un droit de demander que les cours soient pour eux. Si sur 120 demandent que le cours soit en français, et trois seulement, il faut que les trois fassent souffrir tous les autres. Parce qu'il réclamait des cours en français. Alors, il n'a plus osé me parler. J'ai dit, selon Thomas d'Aquin, alors nous respectons la pensée de Thomas d'Aquin, les cours sont pour les étudiants. Les cours sont une œuvre de miséricorde. Ils sont pour les étudiants. certainement un traité des magistraux qui nous dit ça très clairement. Je lui ai donné exprès les références de saint Thomas pour qu'il puisse regarder. Or, ici à Fribourg, on respecte saint Thomas. Donc, ce règlement est peut-être très valable il y a 100 ans, mais actuellement, ça a changé. Les étudiants ne savent plus le latin. Alors, est-ce qu'on doit donner le règlement, ces cours, pour respecter le règlement? Ou c'est pour les étudiants? Je vais vous obéir, hein, si vous me dites que c'est pour le règlement. Je dirais c'est stupide, mais j'obéis. Je fais mes cours pour les étudiants. C'est aussi comme ça. Alors, il était très gêné. Il m'a dit, oh, continuez. Très bien. Il dit aux étudiants, on a le laissé passer. Continuez. Et je continuerai à faire pendant 10 minutes un résumé en latin. Du moins, je résumerai en latin ce que je dis dans le cours. En sorte que ceux qui veulent gratter, ils gratteront, écriront ces 10 minutes de latin. Ça les aidera à suivre ce que je dirais comme explication. Et je ferai l'explication pour former l'intelligence philosophique. Et on a continué comme ça. Les autres professeurs continuaient de faire leurs cours en latin. Et puis au bout d'un certain nombre d'années, les autres professeurs ont commencé à faire la même chose. Oui, alors, ça m'a fait comprendre que les cours spéculatifs faits en latin étaient morts. Langue morte. Et donc, n'éveillez pas l'intelligence au point de vue philosophique. Notre intelligence a besoin d'être éveillée ou réveillée au point de vue spéculatif. Parce que les cours en latin ne les réveillaient pas. Alors, et ça, c'était très, très net. De voir que les cours spéculatifs se donnent en latin par le fait même des étudiants dorment. Il demandait tout simplement le cours imprimé, le livre, Macquart. Si vous voulez voir ce que c'était que les cours en latin, vous n'avez qu'à apprendre le manuel Macquart. C'est le dernier manuel scolastique. Alors vous verrez ce que c'est que la métaphysique dans cette perspective-là. J'ai fait l'expérience parce que au Solchoir, chez les Dominicains, le cours se faisait en français, en langue vulgaire, mais c'était la scolastique. Alors, un professeur qui est plongé dans la scolastique a montré très rapidement une petite plaquette. C'était le père Gardeille. Une petite plaquette, très simple, vous devez la voir à la bibliothèque ici. Qu'est-ce que c'est que la métaphysique? Gardeille. Il était deux, il y avait l'oncle Gardeille, qui était très intelligent, le neveu Gardeille, où, nettement, il y avait une baisse d'intelligence. Pas bonne dégénération, mais... Alors, j'ai regardé qu'est-ce qu'il concevait comme métaphysique. La métaphysique, c'était la recherche de la substance. Rien sur l'acte. Alors, ça vous fait comprendre des quantités de choses. Parce qu'il y a toujours, de ce point de vue-là, la causalité finale n'est pas scientifique. Elle est métaphorique. Et ça, c'est la position de Don Scott. Cette position de Don Scott est passée chez les étudiants de Saint-Thomas par un étudiant qui devait être très intelligent et très perverti. Et on a cru à ce moment-là que la métaphysique de saint Thomas ne regardait pas la finalité. Et à partir de ce jour-là, donc 13e siècle, 14e siècle jusqu'au 20e siècle, on donnait la scolastique sans parler de la causalité finale, son enracinement dans l'être. La causalité finale de l'être en tant qu'être, c'est l'acte. On n'en parlait plus. Puisque cet étudiant, il s'était passé dans la philosophie scolastique, la causalité finale est métaphorique. Donc elle est poétique. Elle n'est pas scientifique. Qu'est-ce qui dit que la causalité finale n'est pas scientifique? C'est Auguste Comte. Il le dit ouvertement, très nettement. La causalité finale, c'est bon pour les enfants. Manger sa soupe pour papa. Manger sa soupe pour faire plaisir au bon Dieu. Pour l'enfant. La causalité finale est très utile pour l'éducation d'un enfant. Mais la causalité finale n'est pas sérieuse. La science, c'est sérieux. Tout est dans la cause formelle. Et on donne des définitions. Alors, vous voyez, à partir du 14e siècle, la scolastique, soi-disant la pensée de saint Thomas, était amputée de la causalité, de la recherche de la causalité finale. On ne voyait que la substance. Ce qui fait comprendre, du reste, la position de Spinoza, tout se ramène à la substance. Et les bons thomistes ne voyaient que la substance. Vous voyez, ce qui est très important à comprendre, c'est que mon intelligence humaine, mon intelligence a un mode humain de s'exercer. Et à ce moment-là, j'ai tout simplement l'abstraction universelle. Et je cherche le genre, la différence spécifique, la définition, la propriété, les accidents. C'est très intéressant, mais c'est une pensée univoque. Et mon intelligence humaine, en étant une intelligence humaine, demeure une intelligence. Une intelligence capable de saisir dans la réalité, non pas le point de vue générique, point de vue univoque, mais de saisir l'être, les transcendentaux, l'être, l'un, le vrai, le bon, aliquid. Et les transcendentaux ne se saisissent pas par le point de vue générique. L'être n'est pas dans un genre. La vérité n'est pas dans un genre. L'unité n'est pas dans un genre. On ne peut le saisir qu'analogiquement, que de façon analogique. Descartes, fils d'Occam, au point de vue pensée, petit-fils, parce qu'entre deux, il y en a plusieurs. Petit-fils d'Occam. Luther, petit-fils d'Occam. Il ne faut pas l'oublier. Et Occam allait plus loin que Luther. Luther a été condamné, du moins, Occam a été condamné. Non. Luther a été condamné et Occam ne l'a pas été. Pourquoi ? Parce que c'était les papes d'Avignon. Or, les papes d'Avignon étaient plus coulants. On a laissé la pensée d'Occam. Et la pensée d'Occam s'est continuée. Et il y avait Descartes. Et l'erreur de Descartes, c'est que l'intelligence humaine, c'est l'entendement. L'entendement, c'est l'intelligence humaine rationnelle et l'intelligence humaine comme intelligence. On ne distinguait plus les deux opérations. On ramenait tout à une seule opération, celle de l'entendement. Et à partir de Descartes, c'est ce qu'on a fait. Jamais plus, dans aucune philosophie, à partir de Descartes, sauf les thomistes, sauf les scotistes, distinguer raison et intellectus, ratio et intellectus. L'entendement était les deux. Et par le fait même, à partir de là, il n'y a plus de pensée métaphysique. Et le tour est joué. Par le fait même, il ne peut plus y avoir de théologie. Ce que dit Saint-Père dans l'encyclique Fides et Ratio. Et Fides et Ratio, là, on n'en parle pas dans les séminaires français. On n'en parle pas. On laisse l'encyclique du peuple, Fides et Ratio. Alors que cette encyclique rappelle, et ça c'est intéressant, rappelle qu'on ne peut pas faire de théologie sans une métaphysique. Donc sans la distinction raison univoque et intelligence analogique. Vous voyez, au fond, cette encyclique du pape, qui est pour nous, hein, cette encyclique du pape était capitale. Elle est capitale pour montrer qu'on ne peut pas faire de la théologie vraie sans métaphysique. Seule l'intelligence qui saisit l'être, le vrai, le bien, les transcendentaux. Les transcendentaux, vous les avez dans saint Thomas, dans le De Veritate, question 1, article 1. Si vous n'avez jamais lu ça du saint Thomas, il faut le lire. Et si vous ne savez pas suffisamment le latin, demandez à quelqu'un qui le sait de vous le traduire. C'est un article capital pour montrer que l'intelligence humaine, dans ce qu'elle a de plus intelligence, comme intelligence, est faite pour l'être. Et elle est capable d'affirmer que Dieu existe. Alors que la position d'Occam et de Luther, parce que Occam a donné naissance à Luther, ils sont parents, il n'y a plus de connaissance analogique. Et par le fait même, on ne peut plus prétendre que l'intelligence humaine est capable d'affirmer que Dieu existe. On ne peut affirmer l'existence de Dieu que par la foi. C'est la position de Luther. Et cette position de Luther, c'est la position d'Occam, 14e siècle. Et Hegel dit « Je suis luthérien ». Et donc, Luther, Hegel affirme que l'intelligence humaine est incapable par elle-même d'atteindre Dieu. Et aussi Bourgeois, qui était professeur de philo dans l'université, Bourgeois, quand il faisait son cours affirmer à tous, si vous n'êtes pas croyant, vous ne comprendrez rien à la position de... Ah, j'oublie le nom, hein, de... Oui. Vous ne pourrez rien y comprendre au cours qu'il faisait sur Hegel. Et le cours qu'il faisait sur Hegel, il avertissait, il avait la moitié d'étudiants qui étaient marxistes. C'est lui qui m'a dit ça. Donc, ces étudiants ne croyaient pas en Dieu, n'avaient pas la foi. Et il leur affirmait que si vous ne croyez pas en Dieu, c'est inutile de l'étudier, vous n'y comprendrez rien. Parce que pour lui, on ne peut faire de métaphysique qu'à partir de la foi. Il dit ouvertement, je suis luthérien. Et aujourd'hui, dans beaucoup d'universités catholiques, j'ai entendu ça de professeurs de facultés catholiques disant « Hegel, c'est tellement fort qu'on ne peut pas le critiquer. » Or, Hegel affirme « Je suis luthérien. » Donc, pour lui, toute sa philosophie dépend de la foi. Et donc, on pouvait affirmer, si vous n'avez pas la foi en Dieu, inutile de lire Hegel. Alors, vous voyez, ces problèmes très actuels, parce que Hegel s'enseigne actuellement dans toutes les universités catholiques. Et la plupart des intelligences sont formées par Hegel. Je parle de la France. Parce qu'en Allemagne, Hegel est dépassé. Parce que Hegel étant allemand, c'est plus facile de le dépasser en Allemagne. Tandis qu'en France, Hegel est une pensée très forte. Une pensée très une, par la dialectique. Si on met le petit doigt dedans, on ne peut plus critiquer. Or, la critique de Hegel, elle est simple. Quel est le point de départ de la philosophie? Est-ce que le point de départ de la philosophie, c'est « je pense » ou est-ce « ceci est » Pour Hegel, la pensée, le début de la pensée philosophique, c'est « je pense ». Le terme de la métaphysique d'Aristote, c'est de dire il y a un être premier dont sa vie, c'est la pensée de la pensée. Noésis, Noé. Noé, Noésis, la pensée de la pensée. Hegel commence sa philosophie par la pensée de la pensée. L'intelligence est divine. Et donc, elle commence par la pensée de la pensée. Et son livre le plus important sur ce que c'est que l'esprit est la phase d'Aristote, la pensée de la pensée. Ce qui pour Aristote est le propre de Dieu devient pour Hegel le propre de l'homme. Une fois que vous pouvez affirmer ça, vous avez compris. Alors, pour nous, c'est quand même très important de bien distinguer le point de vue univoque et le point de vue analogique. Quand on commence la philosophie par la conscience qu'on a de la pensée, on s'enferme dans une pensée univoque.